15. 17 heures. Cela faisait au moins 18 heures qu'Alice s'était enfuie. Les caméras de surveillance du terrain de jeu n'enregistrant pas les images, impossible d'avoir une idée précise. Stackhouse et Madame Sixby, enfermées dans le bureau de cette dernière, suivaient les derniers développements et écoutaient les rapports de leurs informateurs. Il y en avait dans tout le pays. Généralement, ils se contentaient de baliser le terrain. Ils surveillaient les enfants qui possédaient des taux de BDNF élevés et rassemblaient des informations sur leurs amis, leurs familles, leur quartier, leur situation scolaire et leur lieu d'habitation, évidemment. Ils s'intéressaient particulièrement aux habitations et aux systèmes d'alarme. Autant d'informations utiles aux équipes d'extraction le moment venu. Ils guettaient également l'apparition d'enfants spéciaux qui n'étaient pas encore dans le collimateur de l'Institut. Cela se produisait parfois. Car si les tests de BDNF, les dépistages de PKU ou les évaluations du score d'ACPAR constituaient la routine pour les enfants nés dans les hôpitaux américains, tous les bébés ne naissaient pas à l'hôpital. Et de nombreux parents, comme les anti-vaccins, qui se faisaient entendre de plus en plus, interdisaient les tests. Ces informateurs ignoraient à qui ils adressaient leur rapport et dans quel but. Beaucoup croyaient, à tort, qu'il s'agissait d'une sorte d'entreprise gouvernementale dans le style Big Brother. La plupart se contentaient d'empocher leurs 500 dollars mensuels et de rédiger un rapport quand c'était nécessaire sans poser de questions. Bien sûr, il arrivait que l'un d'eux pose une question. Dans ce cas, il découvrait que la curiosité, outre qu'elle était un vilain défaut, vous faisait perdre 500 dollars par mois. La plus importante concentration d'informateurs, une cinquantaine, se trouvait aux abords de l'Institut. Toutefois, traquer les enfants aux talents particuliers n'était pas leur principal objectif. Leur tâche consistait avant tout à repérer les personnes qui posaient les mauvaises questions. Ils faisaient office de détecteur, de système d'alarme. Stackhouse prit soin d'alerter une demi-douzaine d'entre eux à Denison Riverbend, au cas où le jeune Dixon se serait trompé ou aurait menti. « Il ne mentait pas, je l'aurais senti », affirmait Madame Sixby. Mais il envoya la plupart dans les environs de Presqu'île. Un de ses informateurs avait pour mission de contacter la police locale en expliquant qu'il pensait avoir vu un jeune garçon qui avait fait l'objet d'un reportage sur CNN. Il était recherché dans le cadre de l'enquête sur la mort de ses parents et se nommait Luke Ellis. L'homme précisa aux agents qu'il n'était pas certain qu'il s'agisse bien du même enfant, mais il lui ressemblait, et il avait réclamé de l'argent sur un ton menaçant et incohérent. Stackhouse et Madame Sixby savaient bien que faire appel aux autorités pour retrouver leur fugitif n'était pas la solution idéale, mais il était toujours possible de les contrôler. En outre, tout ce que leur raconterait Alice serait interprété comme les divagations d'un enfant déséquilibré. Les téléphones portables ne passaient pas à l'Institut ni au village, ni même dans un rayon de 3 kilomètres. C'est pourquoi les participants à la chasse à l'homme communiquaient par radio. Et il y avait les téléphones fixes. Celui posé sur le bureau de Madame Sixby sonna. Stackhouse décrocha. « Quoi ? Qui est à l'appareil ?» C'était le docteur Felicia Richardson, qui avait remplacé Zeke dans la salle informatique. Avec zèle. Elle aussi jouait sa peau, et elle en avait pleinement conscience. « J'ai un de nos informateurs sur une autre ligne. » Un certain Jean Levesque. Il affirme avoir retrouvé la barque utilisée par Alice. Vous voulez que je vous le transfère ?
Immédiatement.
Madame Sixby se tenait devant Stackhouse. Ses lèvres formaient le mot « quoi ». Stackhouse l'ignora. Il y eut un clic sur la ligne et Levesque reprit la communication. Il avait un accent de Saint John Valley à couper à la tronçonneuse. Stackhouse ne l'avait jamais rencontré, mais il imaginait un vieux type au visage buriné, coiffé d'un chapeau dans lequel étaient plantées des mouches pour la pêche. « J'ai trouvé la barcasse. »«
Oui, il paraît. Où ça ?»«
C'est échoué sur la rive, à environ 8 kilomètres en amont de Presqu'île. Il y avait pas mal de flottes à l'intérieur, pour sûr, mais le manche de la rame, il n'y en avait qu'une, l'était posée sur le siège. J'ai touché à rien, j'ai rien dit à personne. Il y avait du sang sur la rame. Faut que je vous dise qu'il y a des rapides un peu plus haut. Si le gamin que vous cherchez, il n'était pas habitué à naviguer, surtout un petit gars comme ça. »
« Il a peut-être été éjecté, » conclut Stackhouse. « Restez où vous êtes, je vais envoyer 2 hommes. Et merci. »«
Vu ce que vous me payez, » répondit le dénommé Levesque. « Allez pas croire que vous pouvez me dire ce que je dois faire. »
Stackhouse coupa la communication, ce qui était une façon de répondre à cette question, et informa Madame Sixby. « Avec un peu de chance, ce petit salopard s'est noyé et quelqu'un retrouvera son corps ce soir ou demain matin. »
mais on ne peut pas miser là-dessus. Je vais envoyer Rafe et John. Je n'ai personne d'autre sous la main, mais ça va changer quand cette histoire sera terminée. Après Skill, dès que possible. Si Ellis est à pied désormais, c'est là qu'il se rendra en premier. S'il fait du stop, la police du coin va le repérer et l'embarquer. Après tout, c'est ce gamin cinglé qui a assassiné ses parents et qui s'est enfui jusque dans le Maine.
Êtes-vous aussi optimiste que vous semblez l'être ? Madame Sixby se posait sincèrement la question.